You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce jeudi, le Premier ministre Scott Morrison lance une attaque contre le chef de l'opposition fédérale sur la question des salaires. Les députés britanniques ont rejeté l'option d'un Brexit sans accord, 312 voix contre 308. Le président français est au Kenya pour une visite officielle. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison intensifie son attaque contre le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, sur la question des salaires. La faible croissance des salaires est une question clé pour la campagne des élections fédérales de mai prochain. L'opposition suggère de modifier les lois du travail pour augmenter les salaires si elle gagne le pouvoir. Le secteur des affaires met en garde que les augmentations de salaires pourraient avoir un impact négatif sur les petites entreprises. Scott Morrison a déclaré que le salaire minimum est hors de contrôle du gouvernement et que les idées de Bill Shorten et de ses alliés étaient dangereuses.
Well, minimum wages should be set by the independent umpire, which is the Fair Work Commission, and they have a transparent and process for determining that, and that process is underway now. What concerns me about what Bill Shorten is saying is he's either lying to Australians that he can do something about their wages, because he hasn't explained how he's actually going to do it. And if he's telling the truth, then he is putting an enormous cost on small and family businesses that will force them to lay off staff.
Un autre député de la coalition libérale sur le point de démissionner du Parlement, c'est Craig Lundy, député de la circonscription de Reid depuis 2013, un ancien allié de Malcolm Turnbull, l'ancien Premier ministre. Mais selon le journal The Australian, la personne proposée pour le remplacer, l'ancien commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Nick Caldas, a refusé l'offre de se présenter comme candidat libéral. La chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que le chef de l'opposition, Michael Daly, pourrait affaiblir les lois sur les armes à feu. Le parti travailliste compte soutenir le parti des tireurs, des pêcheurs et des agriculteurs dans les électorats clés lors des élections qui se tiendront samedi 23 mars. Gladys Berejiklian a déclaré que des enfants âgés de 10 ans à peine pourraient se procurer des armes à feu. Et le gouvernement continue de défendre sa politique de reconstruire deux stades de sport à Sydney avec les fonds des contribuables. Le trésorier Dominique Perrottet a déclaré sur Sky News que la politique du gouvernement était meilleure que celle du Parti travailliste.
The alternative is to sit on your hands and do nothing. And that's what we saw from the previous government for 16 years. And eventually New South Wales woke up to the fact that there was no infrastructure being built. We live in a world-class city, a world-class state, and we want to take our state forward. And that means not just having the best hospitals, the best schools, the best public transport, but in addition to that, we should have the best cultural and sporting facilities as well. Why should Melbourne, Adelaide and Perth have great sporting and world-class facilities, but Sydney have second-rate ones?
Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu'une Australienne vivant dans un camp de réfugiés avec les familles du groupe djihadiste Daesh serait jugée devant les tribunaux. Si elle revenait en Australie, cette femme serait Zera Duman de Melbourne. Elle est actuellement dans un camp de réfugiés dans le nord-est de la Syrie et elle veut rentrer en Australie parce que son bébé est malade. La demande d'appel de George Pell contre sa condamnation pour agression sexuelle sera entendue par la cour d'appel du Victoria en juin prochain. Le cardinal a été condamné à 6 ans de prison pour avoir abusé sexuellement 2 enfants de cœur. Il sera admissible à une libération conditionnelle dans 3 ans et 8 mois. George Pell est le membre le plus important de l'Église catholique au monde, condamné pour des abus sexuels sur des enfants. Il a été classé comme présentant un risque immédiat d'être sérieusement menacé en prison. Plusieurs femmes australiennes ont manifesté devant un tribunal de Jérusalem où leur présumé agresseur fait l'objet de poursuites. Malka Leifer, 54 ans, est accusée d'avoir abusé sexuellement des étudiantes lorsqu'elle était enseignante dans une école religieuse juive à Melbourne. Le gouvernement australien demande son extradition. Un psychiatre a affirmé lors de l'audience que Malka Lifa était mentalement incapable à subir un procès. L'une des femmes qui porte les accusations contre elle est Nicole Mayer.
It's very hard. It's always very hard to hear psychiatrists say over and over again that she's unfit for trial, that she's not well enough to come and stand trial in Australia. We are just waiting and hoping time and time again, and we will come back again to Israel as we need to hear the judge make that decision and hope that she says that she is fit to stand trial. That is what we are waiting for and hoping for every single time we come, no matter how hard it is to sit in court and not have a voice and not be able to say anything.
Les députés britanniques ont rejeté l'option d'un Brexit sans accord. 312 députés ont voté contre cette possibilité et 308 ont voté pour à la Chambre des communes hier. Reportage de Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
Oui, ces votes ne sont pas juridiquement contraignants, c'est vrai, mais Theresa May a promis de respecter le résultat. C'est en tout cas encore une défaite pour la Première Ministre qui a vu sa propre proposition rejetée elle aussi. Les défaites, ça devient même une habitude pour elle. Autre symbole de la confusion et de l'absence de direction chez les conservateurs, la liberté de vote, y compris au sein du gouvernement. On a vu ce soir des choix éparpillés sur toutes les décisions entre oui, non, abstention. Cet après-midi, on a aussi vu inimaginable jusqu'ici à Londres, un ministre défendre un accord avec l'Union européenne à la norvégienne, deux autres plaider pour une sortie sèche, bref, tout sauf ce que défend d'arrache-pied la première ministre ce soir. Les observateurs se demandent plus que jamais qui dirige le pays. Theresa May, qui propose pourtant, on l'a appris il y a quelques minutes, un nouveau vote sur son accord. Ça sera dans une semaine, veille du Conseil européen. Accord, je vous le rappelle, déjà rejeté deux fois.
Les États-Unis ont cloué au sol les Boeing 737 MAX après l'accident dimanche dernier d'un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. L'annonce a d'abord été faite par le président américain Donald Trump. Explication d'Éric de Salve pour RFI.
Oui, une annonce alors que des 737 MAX sont encore dans le ciel américain. Tous seront cloués au sol dès leur atterrissage. La Maison-Blanche décrète en urgence l'interdiction de tous les vols de ce modèle phare de la gamme Boeing. La sécurité des Américains et des passagers, explique le président, est notre priorité. Il faut dire que les États-Unis étaient de plus en plus isolés depuis le crash de dimanche. La quasi-totalité des agences aéronautiques mondiales ont progressivement interdit de vol cet appareil jusqu'à ce mardi, malgré les nombreux appels de politiques, d'experts, de syndicats. La FAA, Agence fédérale de l'aviation américaine, résistait, assurant que rien ne justifiait une interdiction. Mais aujourd'hui, c'est le revirement en raison, selon la FAA, de nouvelles données, des informations qui tendraient à confirmer une même défaillance du système de stabilisation dans les deux crashs à 5 mois d'intervalle, celui d'Ethiopian et celui de Lion Air. De son côté, Boeing, dont l'action a encore dévissé en bourse, persiste à nier tout danger. Son PDG, Dennis Muilenburg, renouvelle même sa confiance totale en la sécurité de cet avion, assurant que l'interdiction a été décrété à l'initiative de Boeing et uniquement pour assurer le public.
Le président français Emmanuel Macron a été accueilli hier, mercredi, au Kenya par son homologue Uhuru Kenyatta. C'est la première visite d'un chef d'État français depuis l'indépendance du Kenya en 1963. Anthony Latier, RFI.
Costume rouge et grand chapeau, les soldats de la fanfare entonnent les hymnes nationaux devant le premier chef d'État français à pénétrer dans le palais présidentiel kényan. 21 coups de canon retentissent, prélude à un entretien de près de 2 heures où l'on a beaucoup parlé affaires. Emmanuel Macron joue les VRP au Kenya, illustration avec ces entreprises françaises qui vont développer une ligne de train vers l'aéroport de Nairobi.
Ce sera la première liaison ferroviaire moderne en Afrique de l'Est, et une magnifique vitrine pour le Kenya et pour notre partenariat.
Un partenariat basé sur le pragmatisme.
Everybody is unique.
Le président Uhuru Kenyatta explique que de son point de vue, tous les pays sont à la fois uniques et différents et qu'il veut prendre le meilleur de chacun pour développer le Kenya. Emmanuel Macron est mon meilleur ami, dit-il, tout comme le Rwandais Paul Kagame est mon meilleur ami.
But so too is President Kagame.
En tout, ce sont près de 3 milliards d'euros de contrats qui seront signés.
Le Sénat français a adopté hier la loi anti-casseurs en deuxième lecture. Cette loi prévoit des interdictions préventives de manifester. L'Élysée va saisir le Conseil constitutionnel. Écoutez l'analyse du politologue Benjamin Morel sur RFI.
Alors qu'on avait des doutes sur la constitutionnalité du texte dès l'origine, que ces doutes ont été soulevés à plusieurs moments de la procédure parlementaire, dire à présent, eh bien, ces doutes, nous allons les lever et nous allons soumettre la proposition de loi au Conseil constitutionnel, ça pose un certain nombre de questions, tout bêtement, parce que si jamais il y a réellement une invalidation par le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il n'y a plus de dispositif. Par exemple, il n'y a plus d'article 2 sur l'interdiction administrative. Donc, on repart, si on veut, durcir le régime dans la nécessité de déposer un nouveau texte et que donc on prend plus de temps. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent d'avoir un texte peut-être plus réaliste, moins problématique et qui ne risque pas de subir les foudres du Conseil constitutionnel? Eh bien là, on a quand même deux logiques qui se heurtent. Cette logique qui vise à dire il faut voter tout de suite parce que c'est urgent et la logique qui vise à dire on vote quelque chose dont on n'est pas sûr et si jamais c'est inconstitutionnel, on proposera autre chose.
L'habitude de lecture des Français change, comme nous l'explique Sébastien Gédor pour RFI.
88% des Français lisent des livres selon cette étude de l'Institut Ipsos, un chiffre en légère progression mais qu'il faut nuancer. Les femmes et les plus de 65 ans sont les plus grands lecteurs, tandis que les catégories populaires et les hommes d'âge moyen décrochent. Et ce n'est pas seulement dû à l'omniprésence des écrans et au temps passé sur les réseaux sociaux, selon Vincent Monadet, président du Centre National du Livre.
Il y a la concurrence des autres formes de loisirs et tout un tas de déterminants sociaux qui évidemment jouent quand on n'est pas dans des familles ou des environnements professionnels de lecteurs, la lecture est un effort plus grand que quand on est évidemment dans un environnement qui vous pousse à lire.
Au-delà des romans, les lecteurs se tournent de plus en plus vers trois styles de livres. Vincent Monadet.
Manga, comics, développement personnel et fantasy, oui, enfin SF fantasy, mais je pense que c'est plus la fantasy. Oui, c'est des genres qui se détachent. Le développement personnel, c'est probablement que les gens ne se sentent pas toujours bien dans leur vie et cherchent des solutions. Quant au manga et aux comics et à la fantasy, c'est beaucoup ce que lisent les jeunes aujourd'hui.
Autre tendance pointée par le Centre National du Livre, les Français achètent de plus en plus de livres d'occasion, ce qui ne va pas contribuer à redresser un marché de l'édition en berne.
Un mot de sport, cricket et l'Australie gagnent la série des One Day Matches contre l'Inde 3-2. Et dans le cinquième match décisif, l'Australie a gagné par 35 runs, 272 à 237. Le coach australien Justin Langer est ravi et pense que l'Australie a de bonnes chances pour la Coupe du Monde dans quelques mois.
It's going to be really tough to pick the World Cup squad. That said, it's been an incredible arm wrestle. It's been an unbelievable, it's been a real wrestle, but for us to win this series is just incredible for Australian cricket.
Coup d'œil météo maintenant pour ce jeudi en Australie. Perth, maximal de 31 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 23. Hobart, 22. Canberra, 27. Sydney, 24. Brisbane, 32. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 38 degrés. Rappel des grands titres de ce jeudi, le Premier ministre Scott Morrison lance une attaque contre le chef de l'opposition sur la question des salaires. Les députés britanniques ont rejeté l'option d'un Brexit sans accord, 312 voix contre 308. Le président français est au Kenya pour une visite officielle, une première depuis 1963. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.